Parcours Santé sur RCF, en partenariat avec la MSA, la Protection sociale agricole.
Bonjour à tous, merci d'écouter RCF et de nous rejoindre pour ce Parcours Santé. Aujourd'hui, nous parlons de la BPCO. Vous me direz de quoi s'agit-il? Quatre lettres qui signifient bronchopneumopathie chronique obstructive. Peut-être que ça ne vous en dit pas davantage, alors nous allons essayer de mieux connaître ensemble cette maladie qui touche 2 500 000 personnes en France et cause la mort de 16 000 personnes chaque année dans notre pays. Comment se manifeste la BPCO? Quels sont les traitements de la bronchopneumopathie chronique obstructive? Pour nous aider à comprendre, le professeur Bruno Housset, pneumologue au Centre hospitalier intercommunal de Créteil et président de la Fédération française de pneumologie. Bonjour.
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 Et Dominique Delplanque, qui est kinésithérapeute et professeur à l'ADERF, à l'École de kinésithérapie de Paris.
Parcours Santé, Didier Meyran.
Pour commencer, si vous le voulez bien, essayons de comprendre ce qu'est la BPCO. Aidez-nous, professeur Bruno Housset.
La BPCO, donc la bronchopneumopathie chronique obstructive, c'est-à-dire qu'on a une maladie des bronches qui sont obstruées, l'obstruction bronchique, et qui évolue sur des années et qui aboutit en fait à une insuffisance respiratoire. Donc c'est une maladie qui est extrêmement fréquente, beaucoup plus fréquente qu'on ne le croit. C'est une maladie qui est grave, invalidante.
Vous donnez des chiffres qui sont très inquiétants.
Oui. En fait, on est probablement en dessous de la vérité. Donc c'est vraiment un problème de santé publique, au point que la DGS, la Direction Générale de la Santé, a publié un plan de lutte contre la BPCO l'année dernière.
On parle déjà de la troisième cause de mortalité pour cette maladie, la bronchopneumopathie chronique obstructive, d'ici 2020 dans notre pays. Et c'est un chiffre que vous confirmez?
Tout à fait. Il faut lutter, bien sûr, contre cette maladie pour ne pas qu'on atteigne ce hit parade, cette troisième position. Et donc, il faut qu'on prenne des mesures pour lutter contre cette maladie, essentiellement contre le tabagisme.
Alors la Direction Générale de la Santé, vous le disiez dans son dernier plan, a manifesté le fait que cette maladie soit une vraie question de santé publique. Comment ça se caractérise dans ce plan, qu'est-ce qui indique que c'est une priorité de santé publique?
Il y a un certain nombre d'axes qui ont été définis. Il y a 6 axes qui sont définis et qui veulent favoriser, développer la recherche dans le domaine de la BPCO, prévenir cette maladie, informer les gens, former les professionnels de santé. Vous voyez, toute cette panoplie en fait, d'outils qui vont lutter contre cette maladie.
Alors venons-en aux patients, aux malades. Quel est le profil des malades qui sont atteints par la bronchopneumopathie chronique obstructive?
Ce sont le plus souvent des fumeurs de plus de 40 ans, chez qui on va voir apparaître un essoufflement. Et le problème de la bronchopneumopathie chronique obstructive, c'est qu'elle est... C'est le meurtrier silencieux, c'est qu'elle avance à bas bruit. Si vous prenez 10 fumeurs, il y a 8 fumeurs sur 10 qui vont tousser et cracher le matin, donc c'est d'une grande banalité. Il n'y a que 2 à 3 qui vont développer une BPCO, c'est-à-dire une obstruction, et c'est cette obstruction qui va rendre invalide et qui va tuer in fine.
L'obstruction des bronches.
Des bronches.
Les femmes sont plus souvent concernées?
Il y a 2 aspects. D'une part, les femmes fument davantage, en tout cas dans les années récentes, ont fumé davantage que les hommes, et donc on va voir l'effet de ce tabagisme à quelques années de distance, avec effectivement une plus grande fréquence de la BPCO, et par ailleurs, il semble qu'elles soient plus sensibles à la fumée de tabac, pour des raisons qu'on ignore encore un peu.
Alors, les symptômes qui sont caractéristiques de cette maladie, la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, donc des toux grasses, des essoufflements, une insuffisance respiratoire, et puis peut-être aussi des œdèmes, particulièrement aux chevilles.
Ça, c'est très, très tardif. Il faut retenir essentiellement la toux, l'expectoration, et comme je l'ai expliqué, c'est banal chez un fumeur, et il faut être banalisé complètement. C'est normal, je fume, donc je tousse. Et le problème, c'est que le vrai symptôme, c'est l'essoufflement. Et ça, c'est un symptôme tardif. C'est que très tardivement, il est déjà trop tard, entre guillemets, quand apparaît le symptôme de dyspnée, d'essoufflement à l'effort. Quant aux œdèmes des membres inférieurs, c'est vraiment tardif et ça signe en fait une obstruction des vaisseaux dans les poumons, et c'est vraiment un stade avancé de la maladie qui justifie l'oxygène.
Dominique Delplanque, quand les patients vous arrivent dans votre cabinet, vous reconnaissez ces symptômes que nous venons d'évoquer? Qu'est-ce qui est le plus caractéristique dans votre pratique de kinésithérapeute quand vous les recevez?
Je crois que ce qui est le plus caractéristique, c'est cet essoufflement. Alors, comme disait monsieur le professeur Housset, la banalité de la toux et de l'expectoration chronique, on la retrouve aussi dans l'essoufflement. Et c'est vrai que cet essoufflement va s'installer de façon tout à fait insidieuse. Les personnes vont au départ avoir un petit peu de mal à fournir des efforts, somme toute assez importants. Ils vont mettre ça sur le compte de leur âge ou parce qu'ils sont fatigués. Et ça ne sera pas non plus dépisté par les professionnels de santé. Et ce n'est que quand effectivement cet essoufflement va devenir invalidant et va perturber leur vie au quotidien, donc leur qualité de vie, que ces patients arrivent dans les cabinets avec cette plainte. Donc c'est vrai que cette notion d'essoufflement est quelque chose d'extrêmement important. On les voit effectivement très tardivement quand
Alors,
ils
trop
présentent.
tardivement, parce que le dépistage ne s'opère pas de façon suffisamment répandue.
La seule façon de dépister l'obstruction, c'est de la mesurer. Donc, il faut mesurer le souffle et il faut mesurer le souffle précocement. C'est-à-dire que si vous êtes fumeur, plus de 40 ans, vous toussez, vous crachez, il faut mesurer votre souffle. Et donc, ça permet, comme on mesure la tension artérielle, de mesurer l'obstruction.
La principale cause que vous mettez en avant, si j'entends bien, c'est le tabac. Est-ce à dire que c'est la seule ou la majoritaire?
C'est la grande majorité des cas, c'est le tabac. C'est plus de 80% des cas, le tabac est en cause. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent jouer sur le développement d'une BPCO, notamment les facteurs d'exposition professionnelle à des produits toxiques. Et donc ça, il faut savoir y penser, il faut poser des questions pour savoir s'il y a eu un empoussiérage ou une exposition à des toxiques.
On peut imaginer que des facteurs cumulés sont aussi à regarder. J'imagine que tabac plus pollution urbaine, plus pollution domestique, fumée ou autre, ça cumule les risques.
Sur la pollution, il est difficile de faire la part des choses. On sait que probablement ça joue un rôle, probablement pas dans la genèse, dans le développement de la BPCO, mais sûrement dans les exacerbations, on en reparlera peut-être tout à l'heure, c'est-à-dire la poussée de la maladie, quand on est plus essoufflé pendant quelques jours, c'est peut-être les pics de pollution qui peuvent favoriser cela, mais probablement pas le développement de la maladie elle-même.
Alors, comment diagnostiquer la BPCO? Il est fait souvent de façon tardive parce que les malades minimisent les symptômes. Pourtant, il y a des moyens de diagnostic.
Il y a plus des moyens de dépistage, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir identifier, se poser la question, est-ce qu'il y a
Suffisamment en amont.
suffisamment en amont? Et à ce moment-là, il faut confirmer le diagnostic. Quand on a une obstruction des bronches, la question qui suit, c'est est-ce que c'est réversible ou pas? C'est-à-dire, est-ce que les médicaments peuvent réouvrir les bronches, comme c'est le cas dans l'asthme? Quelquefois, il y a une maladie asthmatique qui peut se traduire par l'essoufflement. Donc, c'est extrêmement important de faire à ce moment-là des épreuves fonctionnelles respiratoires, de façon à rechercher cette réversibilité, la possibilité de lever l'obstruction. Et s'il n'y a pas de réversibilité, c'est plutôt en faveur d'une BPCO.
Alors on parle de tests divers et variés, tests de marche, mesure des gaz dans le sang, radiographie du thorax, enfin, il y a toute une série de moyens techniques pour regarder avant le diagnostic.
Le diagnostic, c'est vraiment la fonction respiratoire, c'est la mesure du souffle. Hein. Et puis après, on fait un bilan, effectivement, pour rechercher d'autres choses. Sur la radiographie de thorax, les gaz du sang, c'est pour rechercher une hypoxémie, c'est-à-dire savoir s'il y a un manque d'oxygène dans le sang. Donc ça, c'est un complément. Mais la définition de la maladie, c'est une obstruction des bronches et c'est la mesure du souffle qui permet de savoir.
Parcours santé sur RCF, en partenariat avec la MSA.
Parcours santé, aujourd'hui nous nous intéressons à la bronchopneumopathie chronique obstructive, autrement dit la BPCO. Et c'est une maladie qui est peu connue mais qui est très grave, puisqu'on projette que ce soit la troisième cause de mortalité en France d'ici 2020 et qu'elle touche près de 2 millions de personnes dans notre pays. Dominique Delplanque, vous êtes kinésithérapeute et vous souhaitiez ajouter quelque chose.
Non, non, je confirme tout à fait. Peut-être insister aussi sur la mesure du souffle qui est importante, mais aussi la capacité que doit avoir le praticien dans la relation et dans l'interrogatoire entre, j'aime pas trop ce terme, mais peu importe, quant à arriver à dépister la diminution d'activité de certains patients, parce que c'est banalisé. C'est au décours, effectivement, de nos consultations, de repérer qu'effectivement, ces personnes vont finir par vous dire qu'elle ne va plus à la pêche avec les amis parce qu'elle a du mal à suivre ou qu'elle est fatiguée, etc. Qu'elle a un petit peu de mal à monter tous les étages, mais bon, ça va quand même.
Savoir repérer les signes d'alerte.
Voilà, qui, effectivement, amène obligatoirement à cette mesure du souffle. Mais je pense que les deux doivent être associés.
Oui, les malades développent en fait des processus d'évitement. C'est-à-dire que s'ils sont essoufflés, ils ne vont pas monter les escaliers. Tant qu'ils ne sont pas essoufflés en montant les escaliers. Donc oui, il y a des phénomènes d'évitement qui font qu'en fait, ils disent qu'ils ne sont pas essoufflés. Mais parce qu'ils ne font plus les efforts qui vont engendrer cette sensation d'essoufflement.
Essayez de nous faire comprendre comment évolue cette maladie, la bronchopneumopathie chronique obstructive. Vraisemblablement, quatre stades différents.
On aime bien faire des stades, mais vous savez, ça, je
Je
pense
vois
que
ça souvent,
c'est...
oui.
Ouais, vous savez, en médecine, on est bien classé. Mais je pense qu'il faut imaginer qu'il y a une diminution très progressive, en fait, de la fonction respiratoire, qui, à un moment donné, va arriver à un stade d'invalidité. Quand on est à peu près au tiers de sa fonction respiratoire, eh bien, on est invalide respiratoire, c'est-à-dire qu'on est très essoufflé au moindre effort, et c'est là que ça devient dur. Et puis, si ça continue à se dégrader, on est au stade d'insuffisance respiratoire, avec des risques d'exacerbation et de décès.
Alors les conséquences, vous les évoquiez, une des conséquences ou des complications les plus fréquentes, c'est l'altération hein, de l'élasticité des tissus du poumon et puis évidemment une diminution de l'oxygénation du sang.
Oui, si on peut revenir juste un moment en arrière sur la classification, on aime bien utiliser un paramètre de fonction respiratoire. On utilisait ce qu'on appelle le VEMS, c'est le volume expiré maximal dans la première seconde. Donc ça vous donne une idée en fait de votre capacité respiratoire. Ça pourrait être autre chose. Mais en fait, on classait en fonction de ça. On s'est rendu compte que c'était notoirement insuffisant parce que ça ne tenait pas compte des répercussions sur la qualité de vie. Par exemple, on a introduit le test de marche que vous évoquiez tout à l'heure comme un paramètre qui peut juger de l'autonomie. C'est-à-dire est-ce qu'effectivement, on peut marcher longtemps ou pas, et donc
Sans s'essouffler.
sans s'essouffler. Et donc ça, c'est un problème important que d'intégrer dans différents index ces variables-là pour juger en fait du pronostic de la maladie.
Dominique Delplanque.
Je crois que ce qui est vraiment, vraiment important en termes de répercussion de cette maladie, c'est la diminution des possibilités qu'ils ont à l'effort, ces patients, et l'altération profonde parfois de la qualité de vie de ces patients. C'est un véritable problème de santé publique et c'est vrai que. C'est extrêmement difficile d'imaginer que on ne puisse plus aisément faire sa toilette sans être essoufflé, faire un effort. Et comme ces personnes, alors, ce qui est important, c'est que cet essoufflement n'est pas l'essoufflement qu'une personne lambda peut vivre. C'est un essoufflement qui est extrêmement mal vécu par la personne, qui est ne souhaite pas vraiment le revivre et donc va progressivement baisser ses niveaux d'effort pour ne pas revivre. Et on arrive à ce que l'on appelle un déconditionnement d'effort, une désadaptation qui entraîne la personne dans un cercle vicieux avec une profonde altération de la qualité de vie.
Alors les solutions, les mesures de prévention, quelles sont-elles précisément?
C'est un truisme. Si on arrête de fumer, ça diminue cette dégradation progressive. Hein. J'ai évoqué tout à l'heure cette diminution très progressive de la fonction respiratoire. Si vous arrêtez de fumer, à ce moment-là, vous rejoignez le vieillissement normal du poumon, c'est-à-dire que vous ne mourrez pas d'insuffisance respiratoire si on fait ça suffisamment tôt. Donc vraiment, le point majeur, c'est le sevrage tabagique. Et c'est un point important parce que maintenant, on a des moyens pour aider les gens à arrêter de fumer. Donc de
Tout
plus en
fumeur
plus.
confondu,
Ah
petit,
oui.
grand fumeur, vous ne faites pas de
Ah oui.
distinction.
Pas de
C'est
distinction.
la zéro cigarette.
Zéro cigarette. Il y a eu quelques études qui suggéraient qu'une diminution du tabagisme, ça pouvait être intéressant. Il faut vraiment arrêter de fumer. On sait très bien que vous réduisez un temps et puis après ça recommence. Donc vraiment, il faut essayer d'arrêter de fumer. Et les médicaments dont on dispose actuellement ont une efficacité démontrée.
Par exemple, donc les bronchodilatateurs, pour ce qui est du traitement de la maladie en tant que telle, hein, pas du sevrage du tabagisme, est-ce que ça fonctionne très bien? Est-ce que ça doit être associé toujours ou parfois avec d'autres médicaments comme des antibiotiques, des corticoïdes, ou est-ce que comment se passent les traitements?
Je vous parlais de l'arrêt du tabac. Il a été démontré que ça a augmenté la survie.
Oui.
Dans l'amélioration de survie, il y a l'arrêt du tabagisme. Quand on est très insuffisant respiratoire, il y a le fait de prendre de l'oxygène, d'avoir de l'oxygène au long cours chez soi. Ça améliore la survie. On va reparler probablement de la réhabilitation. Ça améliore la survie. Les médicaments dont on parle, les bronchodilatateurs, les médicaments inhalés, ont plus un effet sur le confort de vie et sur la qualité de vie, ce qui est un élément très important, mais qui n'ont pas d'effet sur la survie. Donc, vous voyez, il y a deux classes entre guillemets
Le confort de vie, la survie,
Voilà.
à pas confondre. Dominique Delplanque, je vous vois avoir la volonté de réagir.
Non, c'est vrai que dans les traitements, bon, il y a les traitements médicamenteux, et puis effectivement, il y a cette approche qui est la réhabilitation respiratoire, dont la pierre angulaire est le réentraînement à l'exercice. Cette réhabilitation respiratoire, elle est multidisciplinaire, c'est-à-dire que lorsqu'un patient rentre dans un stage de réhabilitation respiratoire, dont la pierre angulaire est vraiment le réentraînement à l'exercice, il aura aussi, bien sûr, des soins médicaux, des soins, une aide au sevrage tabagique, un apport nutritionnel, parce que ces patients posent de gros problèmes à ce niveau-là aussi, des soins de kinésithérapie respiratoire, un support psychologique, et puis quelque chose qui est effectivement incontournable aussi, qui est l'éducation thérapeutique ou l'éducation à la santé, qui fait partie intégrante de ce stage et qui, à mon avis, doit être aussi la pierre angulaire du maintien des acquis, parce que là se pose un problème. Lorsque ce stage est terminé, nous observons malheureusement, en gros, l'année qui suit, une perte des acquis. Et je pense qu'effectivement, l'éducation thérapeutique, qui correspond à l'obtention d'une modification de comportement,
se soigner soi-même,
voilà,
enfin, être acteur de sa santé.
Voilà, et là, il y a un véritable chantier à entreprendre.
Sur la réhabilitation respiratoire, professeur Bruno Housset.
Bon, vous avez compris que c'était une organisation sanitaire particulière. Il fallait que plusieurs acteurs de santé travaillent ensemble de façon coordonnée.
Voilà, on a senti que c'était une approche pluridisciplinaire de différents professionnels de santé, une approche qui se veut globale.
Tout à fait. Et donc ça peut se faire soit dans le cadre de stages, c'est-à-dire qu'il y a des structures, il y a insuffisamment de structures de ce type en France. Il y a une étude qui a été faite, une enquête récente, qui montre qu'on manque de structures de ce type.
Donc où s'opèrent ces stages, qu'on comprenne bien ?
Ça se perd dans des centres de santé qui peuvent prendre en charge les patients pour leur offrir ce programme thérapeutique.
Donc des centres de santé, pas à l'hôpital.
L'hôpital n'est pas réellement fait pour ça.
Alors effectivement, devant cette carence de centres, il a été mis en place déjà depuis quelques années des réseaux de soins en ville où ces stages vont se faire au cabinet du kinésithérapeute. Alors le réseau donc dans lequel j'exerce sur l'Île-de-France, c'est le réseau Récupère, et qui effectivement est organisé de la façon suivante. Lorsqu'un médecin généraliste ou un médecin pneumologue pose l'indication d'un stage de réhabilitation respiratoire en ville au cabinet du kinésithérapeute, le patient va suivre un certain parcours avec tout d'abord effectivement une validation de l'indication chez un pneumologue. Et puis ensuite, effectivement, il va être pris en charge par un kinésithérapeute au cabinet, donc 3 fois par semaine pendant au moins 1 heure et demie. Poursuivre ce stage de réhabilitation. Il aura aussi la possibilité, bien sûr, d'avoir un support psychologique, d'avoir une aide au sevrage tabagique.
Ces réseaux existent à travers la France, où il y en a suffisamment, ou c'est expérimental ?
Expérimentaux pour l'instant. Expérimentaux pour l'instant. Et pour l'instant, la Caisse régionale d'assurance maladie finance cette expérimentation.
Dans votre région, en Île-de-France ?
Oui. Alors, le financement se fait effectivement via des soins de kinésithérapie et via le réseau Récupère qui est financé par la Caisse de Sécurité sociale.
Dossier santé.
Alors parlons un petit peu plus du rôle du kinésithérapeute, et c'est votre spécialité, Dominique Delplanque. D'ailleurs, vous avez publié sur la kinésithérapie respiratoire. Alors comment cela se passe pour désencombrer les bronches du patient ? Quels sont les gestes du kinésithérapeute qu'on comprenne bien ?
Alors tout d'abord, le désencombrement, c'est qu'une petite partie de la prise en charge de ce patient, j'insiste. Je pense que la partie la plus importante, c'est dans le cadre d'une réhabilitation respiratoire, le réentraînement à l'exercice. Le fait d'aider les patients à désencombrer est important parce qu'il va permettre d'optimiser effectivement cet entraînement à l'exercice. Alors, c'est effectivement pas quelque chose d'aisé parce que, comme M. Housset vous le disait, ce sont des personnes qui ont des bronches qui sont rétrécies. Donc il y a des résistances, si vous voulez, au passage de l'air qui sont importantes. Ils ont déjà, même s'ils ne sont pas encombrés, c'est difficile pour eux de ventiler. Donc si en plus ils doivent cracher, ce n'est pas aidé. Donc l'ensemble des techniques sont en règle générale basées sur la maîtrise du souffle, la maîtrise de l'expiration. On peut éventuellement s'aider de temps en temps de petits appareillages qui permettent d'optimiser un petit peu ce souffle. Et donc, le deuxième temps aussi, c'est que ces personnes s'approprient, si vous voulez, ces techniques. Et la difficulté réside aussi de ne pas épuiser ces malades à tout prix. En pratique, c'est basé surtout sur la maîtrise du souffle.
Apprendre simultanément et à cracher et à respirer.
Ça va de pair.
Pour être clair. Professeur Bruno Housset, venons-en à des commentaires que vous pourriez nous porter sur les bons comportements à adopter pour chacun de ces patients au niveau respiratoire. Est-ce que vous avez quelques conseils pratiques dont nous pourrions profiter ?
Le point important, c'est l'activité physique. Il faut
Voilà.
leur apprendre vraiment à reprendre une activité physique. Il y a un déconditionnement, il faut lutter
Vous
contre ce
parliez de
déconditionnement.
l'évitement tout à l'heure, hein.
Oui.
Ils allaient éviter l'effort, donc les ramener
Il faut
à de
les
l'activité
remettre dans
physique.
cette activité physique et c'est tout l'objet de la réhabilitation respiratoire et du réentraînement musculaire dont on parlait tout à l'heure. Il faut faire une activité physique à leur rythme. Il faut pas qu'ils fassent 100 mètres, c'est pas l'idée. Mais il faut qu'ils puissent reprendre 2 fois 45 minutes de marche par semaine, c'est pas être un minimum. Et donc il faut qu'ils s'astreignent à ça et ça leur permet de récupérer une autonomie et c'est l'objectif de la réhabilitation. Encore une fois, la réhabilitation a été démontrée moult fois l'efficacité. Il y a eu une conférence d'experts sur le sujet et une recommandation. On a différents grades de recommandation et la recommandation est du grade le plus élevé pour la réhabilitation. Et l'autre
Alors,
problème, c'est que il faut que ce soit un acte qui soit valorisé. C'est-à-dire que quand un professionnel de santé réentraîne un sujet BPCO, il faut qu'il soit payé pour ça. Et pour l'instant, il y a des discussions sur ce remboursement.
discussion à suivre avec les intéressés. Revenons au traitement. Vous nous avez parlé de la médication, vous nous avez parlé de l'importance de la prévention, du sevrage du tabac, on a parlé de la kinésithérapie, on sent bien aussi la volonté d'une approche globale, pluridisciplinaire des professionnels de santé qui s'organisent vraisemblablement, même s'il reste beaucoup à faire en termes de réseau. Mais dans certains cas, on recourt au bout du bout à des traitements chirurgicaux.
Oui, c'est quand même réservé à quelques cas. C'est quand même très exceptionnel qu'on soit amené à poser cette indication. Il y a deux types de chirurgie qui sont proposées. Il y a la chirurgie qui est dite de réduction de volume. Alors pourquoi on va réduire le volume? Il y a certaines régions du poumon qui sont détruites et qui occupent du volume, comme si vous aviez un ballon dans le thorax. Il vaut mieux enlever le ballon. À ce moment-là, vous vous mettrez dans une situation plus simple, plus adéquate pour respirer. Donc c'est cette chirurgie de réduction. Et on a des nouveautés thérapeutiques de ce point de vue. On peut proposer de mettre dans les bronches, par endoscopie bronchique, donc sans ouvrir le thorax, on peut mettre des valves unidirectionnelles. C'est-à-dire qu'elles vont laisser sortir l'air, mais pas sortir l'air, mais pas rentrer l'air. Donc ça va exclure, si vous voulez, cette partie du poumon, de la ventilation, et il va s'affaisser spontanément. Donc il va y avoir une réduction de volume, et ça peut soulager les patients et faire diminuer cette sensation d'essoufflement à l'effort. Et puis l'autre aspect chirurgical, c'est la transplantation pulmonaire, et là, c'est quand même réservé à des cas très particuliers.
Alors, ce qu'il faut retenir également, et alors que on touche à la fin pour ce qui concerne cette émission, c'est que l'information des patients, des professionnels de santé, c'est un axe très important, et surtout, et vous en parliez tout à l'heure, Dominique Delplanque, de l'éducation thérapeutique des patients.
Oui, alors c'est un axe important. D'ailleurs, c'est un des axes, si je me souviens bien, qui fait partie du plan de la Direction générale de la santé. L'éducation, oui, alors ça, c'est un vaste débat. Première chose, l'information n'est pas de l'éducation. D'accord? Donc, l'éducation fait appel effectivement à une approche bien plus fine, si vous voulez, vis-à-vis du patient, que le simple fait de lui dire il ne faut pas. C'est, alors, l'information ne permet pas de résoudre les problèmes. Je vais vous donner une petite illustration.
Très rapidement.
Très rapidement, en France, sur le paquet de cigarettes, il y a marqué fumer tue. On sait que l'impact est modeste. J'ai été faire des conférences au Brésil. C'est extraordinaire. Sur le paquet de cigarettes, vous trouvez des photos en couleur de cancer, de personnes qui sont au bloc opératoire. Et l'impact, là aussi, est tout à fait modeste. Donc, la simple information ne suffit pas. Il faut aller
Il faut
au-delà de tout
saisir
ça.
tout cela de façon plus
Et
prégnante.
voilà.
Bruno Housset, pour terminer, quels sont les progrès récents, les pistes de recherche actuelles qui contribueraient à soigner de façon plus large et peut-être de façon définitive, on peut l'espérer, la bronchopneumopathie chronique obstructive?
Un point extrêmement important, c'est l'information. On a fait des campagnes grand public d'information du grand public. Il y a une campagne Capital Souffle, une campagne Destination Respiration. On a informé le grand public. C'est extrêmement important d'informer les gens sur cette maladie
On
qui
y
est méconnue.
participe
Ça, c'est
aujourd'hui.
vraiment important. Le deuxième point sur la recherche, il faut financer la recherche là-dessus. Et donc, on va mettre en place une fondation pour la recherche en pneumologie de façon à financer les recherches sur cette maladie. Et surtout, on met en place des cohortes, c'est-à-dire un suivi de patients. Et on peut encourager nos auditeurs qui sont atteints de cette maladie à participer à ces cohortes, c'est-à-dire qu'elles peuvent aider à mieux comprendre cette maladie respiratoire. Donc ce sont vraiment les axes sur lesquels on va insister dans les années qui viennent.
Alors, je vous propose de terminer avec ces mots, puisque, eh bien, nous avons des contraintes horaires qu'il nous faut respecter. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rapprocher du Comité national contre les maladies respiratoires à Paris, 66 boulevard Saint-Michel, www.lesouffle.org. org. Je vous rappelle également la journée mondiale de lutte contre la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, journée mondiale de lutte contre la BPCO le 15 novembre. Je vous remercie à tous les deux pour cet exercice, pour nous avoir amené avec pédagogie des informations sur cette maladie. Je vous retrouverai la semaine prochaine, comme chaque semaine, pour Parcours Santé avec un sujet sur les varices et je recevrai le docteur Philippe Blanche-Maison et le docteur Cazobon. Au revoir, bonne semaine et bonne santé à tous et à toutes.
C'était Parcours Santé sur RCF en partenariat avec la MSA, la Protection sociale agricole.